Le colloque Démarche prospective ADEME-CSTB, quelles questions cela pose aux fournisseurs de la filière ?
Rebonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans notre studio pour la deuxième partie de notre débat. Quelles questions, les scénarios avancés par la démarche prospective et les réactions aussi qu'on a pu entendre lors de la première partie posent aux fournisseurs de la filière. Et pour y répondre, je suis ravie d'accueillir alors ici en studio et également à distance. Alors ici en studio, monsieur François Pétry, vous êtes directeur général de Lafarge-Oulcim, dirigeant du syndicat national de l'industrie cimentière, le SFIC, également président de l'association professionnelle filière béton.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Monsieur Alexis Mas, vous êtes délégué stratégie chez GRDF.
Bonjour.
Bonjour à vous. Erwan Chauvel, vous êtes directeur stratégie et expérience client chez Primagaz.
Bonjour.
Et alors nous avons trois intervenants à distance. Nous avons monsieur Marc Brévière, vice-président, directeur stratégie, communication et expérience client chez Aldès. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Donc tout le monde nous entend bien. Nous avons également monsieur Delépine, vice-président bâtiment et filière chez Schneider Electric. Vous êtes également président du collectif pour les bâtiments performants, le JMELEC. Bonjour monsieur.
Bonjour à toutes et à tous.
Et enfin, nous avons monsieur Benoît Coquart, directeur général Legrand et président d'Ignès. Bonjour monsieur.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, comme je le disais tout à l'heure, là, c'est moi qui fais la part de diversité de cette table ronde. Mais bon, comme je vous le rappelle, si vous n'étiez pas là à la table ronde précédente et même celle d'avant, vous verrez que la parité est respectée sur tout le colloque, toute la journée. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc, l'idée, justement, c'est de, pour commencer, d'avoir cette même question aussi que lors de la précédente table ronde. Peut-être déjà aussi une réaction à ce que vous avez entendu. Mais finalement, pourquoi est-ce que c'était important pour vous de participer à cette démarche ? Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé ou surpris après avoir pris connaissance de ces différents scénarios ? Et j'ai envie de commencer par la filière béton, monsieur Pétry.
Alors, vous l'avez dit, la filière béton était partenaire de l'étude. Et l'intérêt pour nous, c'était d'avoir la capacité, grâce à l'ADEME, grâce au CSTB, d'intégrer plus de variables et plus de composantes dans la définition des scénarios possibles. Et effectivement, de prendre plus de hauteur et puis aussi d'être plus large dans la prise en compte des différents paramètres. Et quand on regarde les quatre scénarios qui ont été développés, effectivement, il y a un grand intérêt à cette démarche. Alors, un intérêt qui nous permet de renforcer un certain nombre de points de nos différenciations ou des choses qu'on a déjà démarrées. Bien sûr, le bas carbone dans lequel on s'inscrit, qui a démarré et qui a déclenché une accélération, une évolution forte dans la façon de travailler et dans le focus que l'on donne à l'innovation dans nos métiers. L'aspect local du territoire, d'être dans les territoires et donc de pouvoir, par rapport par exemple au scénario pénurie anticipé, s'assurer qu'on a les matériaux disponibles et qu'on peut répondre aux attentes. Et puis il y a dans les scénarios plus positifs, qu'il s'agisse du bâtiment comme service ou du rééquilibrage, des composantes que l'on voit déjà dans l'évolution du marché et qui nous permettent bien d'affûter un petit peu notre préparation et de mieux travailler.
Et alors, finalement, je vous en prie.
Non, je ne dis pas qu'on avait anticipé les différentes composantes. Et pour ma part, j'ai l'impression que le scénario qui se déroulera sera plutôt une composante de ces différents scénarios, comme ça a été dit déjà. Et qu'effectivement, donc, si certains des sujets à préparer ou à identifier l'ont été, eh bien, il y a aussi à renforcer et à développer notre agilité, à mieux travailler avec l'ensemble des acteurs en horizontal et en vertical, et à mieux comprendre les évolutions qui se produiront sur l'ensemble de la chaîne de la valeur.
Voilà, justement, on les évoquait, ces évolutions dans la table ronde précédente, notamment voilà, cette plus forte collaboration entre les acteurs du secteur. Vous la ressentez aussi, j'imagine, du côté de la filière béton, puis cette nouvelle façon de travailler. Est-ce que ça vous fait envisager de... quelles sont les pistes sur lesquelles vous travaillez le plus ? Qu'est-ce que ça vous fait envisager ?
Alors, sur des métiers comme les nôtres, la filière béton, bien sûr, le sujet de mieux intégrer ou mieux travailler avec d'autres matériaux s'impose. Et l'évolution réglementaire nous amène vers ça, mais les attentes sociétales et de nos clients de la même façon. Et je pense que l'impact majeur est une façon différente de travailler, plus d'agilité, plus de capacité à s'adapter et une accélération des phases de développement et de mise en marché des nouveaux produits.
Oui, de l'innovation. Vous allez chercher la nouvelle façon de faire ce béton, d'avoir des bétons haute performance. On pense aussi aux nouveaux liants, etc.
Tout à fait. Donc, non seulement de sortir ces matériaux, mais de les rendre compatibles avec les utilisations et les attentes de nos clients et les utilisations des constructeurs. Et donc, tout ce cycle de développement doit se faire en parallèle avec les metteurs en œuvre et les utilisateurs finaux. Et bien sûr, en étant dès que possible capable d'expliquer aux concepteurs des bâtiments comment ils pourront les utiliser et à quoi ça servira.
Bien évidemment, voilà, chaque scénario vous permet d'avoir une approche, de vous remettre en question, de remettre aussi en question certaines habitudes. Est-ce qu'il y a un scénario qui vous angoisse le plus ? Enfin, au-delà du scénario pénurie, hein, qui peut être très spécifique, mais qui vous angoisse, qui vous transformerait le plus ?
Alors, il y en a un qui nous angoisse un peu, c'est le difficile de tout faire en même temps. Ouais. Et effectivement, dans une filière longue, un cycle de vie, enfin une chaîne de la valeur assez longue comme la nôtre, la vitesse qui nous est demandée est élevée. Et donc, être capable de gérer cette vitesse est un sujet important. Mm-hmm. Pour ne pas arriver à une impasse et à des écarts trop importants entre la théorie et puis la réalité de ce que l'on sait faire. Ce qui, je pense, nous amènerait au plus de progrès et le bon mix des scénarios. Effectivement, je pense que nos produits et la filière béton est capable de s'adapter assez bien au bâtiment comme service, mais qui est un petit peu extrême, mais qui sera une des composantes de la ville de demain. Et on sait déjà que le rééquilibrage est là. Et notre sujet de circularité et d'activité locale nous prépare bien et nous prédispose bien à un scénario de type rééquilibrage avec plus d'équilibre entre la ville dense et puis les zones périurbaines.
Bien sûr, puis c'est là aussi une réponse à cette... de montrer aussi, on le voit à travers tous ces scénarios, que la filière béton, elle est toujours présente et elle sait évoluer et elle sait innover. C'est ça aussi que vous voudriez porter, j'imagine. Justement, quand on entend la première table ronde des promoteurs qui disent ils vont faire de plus en plus de... Et puis une RE aussi, 2020, et ça me permettra de faire la transition, qui met l'accent aussi sur les biosourcés, etc. C'est des choses sur lesquelles aussi ça vous challenge, forcément.
Mais on est fortement challengé sur ces sujets-là. Ce sont aussi des sujets que l'on intègre dans les développements que l'on va faire et dans les changements d'habitudes et d'usages qui arrivent aujourd'hui chez nous, de rendre compatibles nos produits avec des matériaux biosourcés, soit en les intégrant, soit en les intégrant dans la conception et ou dans la capacité à construire ensemble.
Bien sûr, et puis on le sait aussi sur le réemploi, c'est des choses de réemploi, le recyclage sur lesquelles vous travaillez énormément. Alors justement, merci beaucoup monsieur, je me tourne vers mes... deux collègues en face, justement, sur cette question de réglementation, le bouleversement que pose la trajectoire neutralité carbone, la RE 2020. Pour les acteurs du gaz, c'est aussi une atteinte assez importante aussi à vos activités traditionnelles, on va dire ça comme ça. La démarche CSTB ADEM vous permet aussi d'appréhender les différents scénarios. Vous êtes également GRDF et Primagaz partenaire de cette étude. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette démarche ? Et bien sûr, nous intéresserons aussi à comment vous réagissez à cela. Alors peut-être, Monsieur Mas, l'intérêt de cette démarche pour vous, c'est quoi ?
Il y a deux questions dans votre question.
J'adore poser plein de questions en même temps.
La première question, c'est est-ce que la filière gaz est interpellée par la neutralité carbone ? Alors, si ça veut dire que... si votre question, c'est est-ce qu'il faut se passer du gaz naturel fossile d'ici 2050 ? La réponse est oui.
Bien sûr.
Et bien sûr, il faut se passer du gaz naturel fossile. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un potentiel, notamment en France... extrêmement important de gaz vert et que nous n'aurons pas de grandes difficultés à verdir le gaz.
Oui, vous êtes un acteur important maintenant aussi de ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Vous essayez.
Nous, ce qu'on essaye, c'est d'encourager les porteurs de projets à développer ces nouveaux gaz. Il y a plusieurs procédés de fabrication, il y a plusieurs intrants, mais on a un potentiel particulièrement important en France. Et donc, le plus vite, c'est le mieux, naturellement. Et puis la deuxième chose, c'est que on n'arrivera pas à atteindre la neutralité carbone sans travailler sur les consommations et sans réduire les consommations. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, dit le proverbe, à juste titre, à raison. Il faut travailler sur des appareils plus économes en énergie. Il faut travailler sur la sobriété, donc sur la manière dont nous vivons pour atteindre la neutralité carbone. Et donc, le premier axe de votre question, c'est est-ce que ça nous percute ? La réponse est bien sûr, comme tout le monde. Et notre façon d'y répondre, c'est de travailler aux réductions de consommation et à notre verdissement le plus vite possible. variables. Alors, quand on a fait ça, comment est-ce qu'on réagit au scénario ADEME, CSTB ? On a bien sûr besoin d'explorer les possibles. Ce qui est très intéressant dans ces travaux de prospective, c'est aussi cette pluralité de scénarios qui nous permettent de nous projeter sur des avenirs ou des lignes de force vers le futur très différentes, qui nous permettent de nous poser des questions, d'avoir des scénarios repoussoirs, d'avoir des choses sur lesquelles on se dit bah, « là, on aimerait que ce futur-là soit, soit possible ». Moi, quand j'ai lu les quatre scénarios, il y en a, comme tout le monde, et d'ailleurs, comme la présentation le montrait, deux qui m'ont immédiatement sauté aux yeux comme étant des repoussoirs majeurs. C'est d'autant plus vrai pour un énergéticien. Le premier, c'est si on ne peut pas tout faire, ça veut dire qu'on a raté la transition énergétique. Ça, c'est inadmissible. Ce n'est pas envisageable que l'humanité ne puisse pas vivre sur Terre de façon satisfaisante dans 50 ans. Ce sont nos enfants, nos petits-enfants. Naturellement, ils doivent pouvoir habiter la Terre dans de bonnes conditions. Et donc, je refuse d'envisager ce premier scénario. Alors, bien sûr, il faut l'envisager pour pouvoir agir, mais je refuse de croire que nous ne ferons pas tout ce qu'il faut pour l'éviter. Puis le deuxième repoussoir, c'est la pénurie. Alors, pour un énergéticien, ça veut dire des blackouts, des coupures, des gens qui ont froid l'hiver, des professionnels qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas l'énergie qui leur permet de le faire. Là encore, c'est un scénario repoussoir. Et d'où d'ailleurs l'intérêt, qui est bien de se rappeler qu'un système énergétique, c'est trois objectifs. Le premier, c'est quand même qu'il y ait l'énergie dont chacun a besoin arrive jusque chez le client. Le deuxième, c'est qu'on puisse se verdir et sauver l'humanité. Le troisième, c'est que tout ça se fasse à un coût raisonnable. Et je n'ai pas besoin de rappeler que nous vivons une période où on se rappelle très bien que le coût peut flamber. Et donc, on a trois objectifs. C'est beaucoup. On a aussi des solutions qui permettent d'atteindre l'ensemble. Et c'est bien en prenant en compte ces trois dimensions qu'on arrivera à progresser vers ce qui est satisfaisant. Donc, deux scénarios restent dans les scénarios CSTB-ADEME. Il y en a un, moi, qui m'interpelle particulièrement, c'est le rééquilibrage territorial, parce qu'on sent qu'il y a une tendance sociétale au retour du local. D'ailleurs, si on sent le marketing, il y a trois tendances. Il y a le vert, et bien sûr, il faut que ce soit plus vert. Il y a le local. Et en matière d'énergie aussi, ça compte, ce qui veut dire qu'il faut imaginer des manières de lier une production locale et des usages locaux. Et puis, c'est le sensoriel. Moi, je ne sais pas expliquer dans quelle mesure le sensoriel va...
C'est intéressant comme image, ce sensoriel. Donc, finalement, de sentir bien là où on est, d'avoir du confort.
Et je pense que même dans la manière dont on vit notre chaleur dans un appartement, ce n'est pas la même chose d'avoir un convecteur électrique ou d'avoir une boucle d'eau chaude. On n'a pas les mêmes sentiments. Je ne porte pas de jugement de valeur sur les différentes solutions, mais je suis certain, en tout cas, que ça fait partie des choses qu'il faut réfléchir quand on construit un bâtiment, de la même façon que vous savez bien que vous préférez que l'hiver, votre bâtiment, que votre séjour soit bénéficie de lumière ou de soleil, et que ça fait partie de cette expérience que l'on recherche naturellement dans un logement.
Donc finalement, on le sent donc particulièrement intéressé par le scénario rééquilibrage.
Il reste bâtiment comme un service.
Oui, ce que j'allais vous dire, il nous en reste un, bâtiment comme un service. Comment vous le percevez celui-ci ? Parce que c'est assez... ça vous change, quoi. Ça vous change un peu d'objectif.
C'est celui qui probablement nous disrupte, ou en tout cas réinterroge le plus la manière dont nous rendons notre service. Alors le GRDF, c'est le service public du gaz. On travaille pour le compte des collectivités territoriales en entretenant un réseau qui est d'ailleurs qui existe dans la plupart des communes dans les milieux urbains denses. Et donc, si le service est rendu à quelqu'un d'autre, se pose la question de l'articulation entre notre prestation, le donneur d'ordre qui, pour nous, est la collectivité territoriale et nous-mêmes. Et donc, ça interroge plutôt notre modèle d'affaires que nos objectifs.
Mais justement, alors forcément, je me retourne vers vous, Monsieur Chauvel, donc distributeur de gaz. Vous écoutez GRDF, quelle est votre réaction ?
Alors, il y a plusieurs éléments et c'est intéressant de passer en troisième. Vous avez fait une transition assez belle avec la RE 2020. Primagaz, nous, on est un acteur distributeur de gaz, comme vous le disiez à l'instant, dans les 27 000 communes qui ne sont pas distribuées par le gaz naturel, dit naturel, hein, le fameux réseau de GRDF. Nous, au cœur de notre métier, j'ai envie de dire, il y a évidemment cette notion, hein, parce qu'on est un petit acteur local, hein, c'est la raison d'être de Primagaz, apporter l'énergie indispensable à la vitalité des territoires. Donc, cette notion de se remettre en question continuellement pour accompagner les transformations liées à la consommation de l'énergie font partie de notre métier. Hein, cette notion continue d'évolution, elle est un peu intrinsèque à notre métier. La RE 2020 est venue quand même perturber un petit peu les équilibres des énergéticiens. puisque aujourd'hui, il y a cette espèce de dogme où on oppose les énergies. Vous le disiez à l'instant, l'électricité, ça apporte un confort différent versus le gaz. Chez Primagaz, nous, on ne veut pas opposer les énergies. Notre positionnement, c'est de dire, et je crois que les quatre scénarios, je vais y revenir, mais les quatre scénarios, finalement, favorisent ce mix énergétique. À partir du moment où on se
comme
dit...
elles favorisent le mix matériaux, d'ailleurs.
Exactement. Mais c'est, finalement, c'est la même réflexion. Hein. Y a besoin d'un mix et d'une diversité parce que ce que vous disiez à l'instant, moi, je suis aussi convaincu que finalement ce qui arrivera c'est une certaine composante des quatre scénarios, certaines plus fortes que d'autres, qui sont privilégiées par à peu près tous les acteurs qui interviennent cet après-midi, évidemment, les deux du milieu, mais les deux extrêmes, il y aura une partie quand même qui va arriver. Comment un acteur comme Primagaz va pouvoir accompagner ça? On a besoin aussi, je reviens à la RE 2020, d'un cadre qui est assez clair, un mix énergétique où chacun a sa place. Moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites à l'instant, on a besoin de verdir nos énergies. La neutralité carbone, c'est un objectif. On se doit, parce qu'on a une responsabilité sociale, de verdir nos énergies. Primagaz a pris l'ambition, en 2040, de distribuer 100% d'énergie d'origine renouvelable. Donc la question n'est pas de savoir est-ce qu'on y va, c'est est-ce qu'on y va assez vite. On est parfaitement aligné sur ce sujet-là. Après, il faut qu'on nous donne un cadre réglementaire, et on voit bien que le scénario pénurie, si j'évacue un peu comme tout le monde assez rapidement...
On n'a pas envie de s'attarder sur celui-là. Et pourtant, c'est celui
exactement.
Qui est important en ce moment.
Le cadre réglementaire et technologique doit être extrêmement clair. L'Aéro 2020, en ce sens, ne va pas favoriser des acteurs comme les gaziers, et Primagaz en particulier, pour favoriser l'émergence de solutions qui vont nous permettre de verdir. À partir du moment où on oppose des énergies, on ne rend pas service. Je reviens également aussi sur ce scénario où il est difficile de tout faire, qui n'a pas forcément la faveur de tout le monde. Ce mix énergétique, si on se dit qu'à un moment donné, on est face à un constat où on ne peut pas tout faire, il faut être en capacité de dire qu'il y aura de la place pour tout le monde et donc il faut pousser toutes les énergies à être le plus verte possible, le plus renouvelable possible pour accompagner cette transition. Évidemment, rater la transition énergétique, c'est impossible pour l'intégralité de tous les acteurs que nous sommes. Et donc, c'est parce qu'ensemble, on va grouper nos forces et associer nos forces qu'on va pouvoir réussir cette transition énergétique. Évidemment, si je prends les deux scénarios du milieu, ce rééquilibrage territorial, de par sa composante territoriale, il est extrêmement intéressant pour Primagaz. Mais encore une fois, on a besoin de clarification sur ce mix énergétique dans le financement.
Ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, c'est qu'il faut qu'il y ait ce cadre aussi, quand même, de cette prise de conscience. Enfin, la prise de conscience sociétale, elle est là, mais il faut que ça aille aussi, qu'il y ait des prises de position politiques, et du coup, un cadre réglementaire qui se fait.
Exactement. Si vous voulez rééquilibrer, rééquilibrer aussi la fiscalité autour des énergies. Le fait que l'énergie fossile soit autant taxée que l'énergie renouvelable, c'est pas normal. Les clients consommateurs, ils comprennent pas que quand vous distribuez, que ce soit de l'industrie gazière dans sa globalité, une énergie d'origine fossile ou 100% renouvelable, c'est la même fiscalité. C'est pas logique.
J'aurais aimé que vous soyez tous autour de la table, ça aurait été comme ça, on aurait pu également avoir les réactions, mais vous vouliez réagir justement, monsieur Mas, par rapport à ce que vous avez entendu.
Oui, avec deux réactions immédiates. Je pense qu'effectivement, on est en train de sortir d'un monde d'affrontement des énergies pour aller vers un monde de complémentarité. Le premier signe, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, ça se fabrique avec différentes techniques, mais d'abord avec de l'électricité renouvelable qu'on transforme en gaz. Deuxième, mais ça, c'est pour l'amont, mais c'est vrai aussi pour l'aval. Aujourd'hui, dans les scénarios de RTE, donc le transporteur d'électricité qui essaye de modéliser ce que sera l'équilibre du système électrique d'ici 2050, il y a 2,5 millions d'appareils hybrides, gaz et électricité. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de pompes à chaleur, qui est un outil magnifique, électrique, pour apporter du confort toute l'année. Mais au moment de la pointe hivernale, quand il fait très froid, cette pompe à chaleur n'a plus les bonnes propriétés, c'est-à-dire qu'elle tire énormément sur le système. Et c'est là où la pointe d'un appareil gaz, ça permet de faire les deux à la fois. Donc que ce soit sur l'amont de la chaîne avec l'hydrogène ou sur l'aval, la complémentarité fait partie des bonnes solutions. La deuxième chose, c'est que vous avez mentionné plusieurs fois la RE 2020. Alors nous, on était... peiné par la RE 2020, mais d'abord...
Mais finalement, ceux d'avant étaient... Enfin, justement, je ne veux pas parler d'adversaire, mais finalement, la RT 2012, c'était l'inverse. Donc, c'était autre chose, on va dire.
Oui, alors, le point, nous, qui nous choque, qui nous choquait, c'est quand vous avez un maire qui construit un écoquartier et en même temps qui mène un débat public pour l'installation d'un méthaniseur, Le fait qu'ils ne puissent pas, dans le même projet de territoire, avoir ce gaz vert qui est produit et qui soit utilisé juste à côté, c'est incompréhensible ni pour lui, ni pour les habitants. Et donc, le sujet, c'est pas qu'il y ait du gaz fossile qui rentre dans le bâtiment si on veut atteindre la neutralité carbone, que dans le bâtiment neuf, on prenne des mesures en disant, ben voilà, on regardera. Mais par contre, qu'on ne puisse pas mettre du gaz vert produit à proximité dans un bâtiment, c'est juste inexplicable. C'est le projet de territoire, de décarbonation du territoire qui est rendu impossible. Mmh. Et c'est là où on voit que les grandes verticales gouvernementales, où on prend les politiques en silo en oubliant la dimension territoriale, se heurtent au bon sens des citoyens qui ne comprennent plus ce qu'on leur interdit de faire ou pas faire. Et là, ça nous a beaucoup plus choqués.
Alors forcément, vous le disiez, ce sont des moments, ce qu'on disait, voilà, des décisions politiques aussi, des cadres réglementaires à trouver, mais finalement des modèles économiques aussi à réinventer pour chacun d'entre vous aussi autour de la table. Alors pour avancer, je vais me tourner également vers, je me tourne vers un écran, hein, mais nous avons des acteurs justement de la filière plus numérique, électrique, voilà, sur des questions sont forcément différentes et où forcément on se dit que pour eux, le scénario bâtiment comme un service ne doit pas les laisser indifférents. Alors on va commencer peut-être par Monsieur Coquart. Monsieur Coquart, Ignès, c'est l'Alliance des industriels qui propose des solutions électriques et numériques. Vous êtes tourné justement vers les services aux occupants. En quoi cette démarche prospective est intéressante pour vous et quelle est votre vision? Et bien évidemment, vous avez le droit aussi de réagir à ce que vous avez entendu. Hein.
Bonjour, merci d'abord de votre invitation. Alors une petite remarque, c'est que à distance, le son venant du studio est un peu haché. Alors c'est peut-être moi, c'est peut-être vous. Donc si je suis pas audible, dites-le moi.
On vous entend très bien. On vous entend très bien.
Bon, écoutez, alors côté Ignès, on a évidemment, comme je pense tous les participants à ce colloque, trouvé l'étude passionnante. Et pourquoi elle nous interpelle beaucoup? Parce que vous savez qu'on est sur des, et certains intervenants l'ont dit, on est sur des cycles très longs. C'est-à-dire que quand on développe un produit électrique ou numérique ou le bâtiment, généralement le temps de développement, marketing, etc., c'est peut-être 2-3 ans. Et puis ensuite, nos produits vont vivre dans un bâtiment 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc le bâtiment 2050 aura des produits qu'on est aujourd'hui en train de commercialiser. Voilà, on est sur des temps très très longs, donc c'est important de prévoir ce qui va se passer. Je vais vous donner juste un exemple très simple de ça, qui est un exemple un peu passé. Il y a quelques années, quand on débattait autour de l'équipement du bâtiment en numérique et notamment de la thématique des normes, on a beaucoup de gens qui disaient, écoutez, je parle d'il y a 10 ans, hein, c'est pas très ancien, ça sert à rien dans un bâtiment résidentiel d'avoir un coffret de com, des prises RJ45, un réseau local pour se connecter avec son ordinateur, une borne Wi-Fi suffit. Et nous, on avait dit, attention, ça suffit aujourd'hui, mais quels seront les usages dans 10, 15, 20 ans? Ça suffira peut-être pas. Et on y est. C'est-à-dire qu'en pratique, aujourd'hui, quand vous devez vous connecter à distance, télétravailler, jouer en réseau, piloter votre installation électrique, y compris à distance, etc., etc., ça suffit plus d'avoir la borne Wi-Fi. Il faut un réseau de qualité. Et beaucoup de gens le constatent aujourd'hui. Et malheureusement, je crains qu'on le constate également.
On le constate encore là, oui.
dans quelques secondes. Voilà. Donc, voilà, pour ça, c'est très, très important de pouvoir planifier à distance parce que, encore une fois, les équipements électriques qu'on vend aujourd'hui, numériques, seront pour certains, toujours dans le bâtiment en 2040 ou 2050.
Mais finalement, alors, vous voyez aussi cette confirmation, cette accélération aussi des tendances justement que vous aviez évoquées.
Alors, je pense que dans les quatre scénarios, je ne veux pas être très originaux, tous ces scénarios, on peut tirer des droites sur un certain nombre de choses sur lesquelles on travaille aujourd'hui et qui correspondront à chacun de ces scénarios-là. On est convaincu, comme tout le monde, que les quatre scénarios coexisteront. Ils coexisteront peut-être par type de bâtiment, d'ailleurs. Le bâtiment comme service, qui est un peu le rêve de tout le monde, puisqu'il veut dire valeur ajoutée, il veut dire satisfaction des usagers, etc. Il sera peut-être valable pour toute une série de grands bâtiments neufs. Le scénario rééquilibrage sera peut-être bon pour laisser des bâtiments de parcs plus anciens, plus petits. Il y aura malheureusement à craindre pour un certain nombre de parcs un scénario type pénurie. Donc ces scénarios vont coexister. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire dans quelle mesure il y a des traits communs entre ces scénarios. C'est-à-dire, nous, en tant qu'industriels, on n'a pas à choisir tel ou tel scénario. On ne peut pas dire, tiens, allez, on fonce sur le bâtiment comme service, on oublie tout le reste. On a plutôt à se dire, ces scénarios, C'est très commun, il y en a quelques-uns. Et encore une fois, vos interlocuteurs l'ont déjà souligné, c'est par exemple la numérisation du bâtiment. Quel que soit le scénario, on pressent que les bâtiments seront de plus en plus numériques, parce que le numérique permet de réduire les consommations d'énergie, de faciliter ou simplifier la vie des habitants. Alors, j'ai bien aimé le concept de monsieur de bâtiment sensoriel, d'apporter un petit peu plus de sensations au bâtiment et de confort au bâtiment, etc. Donc ça, c'est un trend, de toute façon, qu'on doit poursuivre. Et quel que soit le scénario sur lequel on sera, les bâtiments demain seront beaucoup plus numériques. Alors, on peut lister encore 3 ou 4 trends
Les usages aussi, j'imagine, vous aussi, vous l'observez, hein, la façon dont on va se retourner plus vers l'usager et les usages qu'il fait.
Une interlocutrice, en l'occurrence, disait les bâtiments, ils devront être un peu plus... ils devront changer d'usage. Ils seront bureaux, puis demain logement, et puis peut-être ensuite commerce. Et nous, on est convaincus qu'ils devront également, en ce qui concerne les logements, s'adapter beaucoup plus à l'occupant. Et ce n'est pas la même chose. Quand vous êtes un jeune couple avec enfant, vous n'avez pas besoin de la même installation électrique que quand vous êtes, par exemple, personne âgée de 85 ans qui commence à être un peu en perte d'autonomie et vous voulez avoir un environnement électrique très sécurisé avec toute une série de solutions qui vous permettent de rester au domicile. Donc, c'est vraiment important d'avoir un certain nombre de solutions qui permettent d'être comme ça adaptable. Donc ça veut dire des solutions qui puissent avoir plusieurs usages, ça veut dire la capacité à
d'être au service de à chaque fois la personne qui
ça veut dire des solutions avec de l'électronique et du software, parce qu'avec le software vous pouvez faire changer l'usage d'un produit beaucoup plus facilement. Voilà, donc tout ça, c'est cette espèce de versatilité du bâtiment en fonction des occupants sera un trend très important et là encore qui parcourra tous ces scénarios.
Et enfin aussi, vous le disiez, mais cette nécessité de pédagogie quand même aussi, parce que c'est bien intéressant d'avoir tous ces systèmes mis en place, mais il faut aussi que les gens sachent bien s'en servir.
Oui, et puis il faut surtout, plus que l'usage, parce que bon, ça c'est un peu notre job depuis tout le temps, je pense, il faut que les solutions améliorent la productivité du bâtiment. Ça c'est indispensable, et encore le numérique va aider, parce que quel que soit le scénario, et certains de nos interlocuteurs l'ont dit, on va être dans une espèce d'équation très compliquée, où on demandera au bâtiment d'être de plus en plus économe. Personne ne souhaitera rogner sur son confort et sa capacité à communiquer dans son bâtiment. On ne va pas supprimer les ordinateurs et se remettre au stylo parce qu'on doit consommer moins d'énergie. Et en même temps, il y a une équation économique qui est incontestable. Et ni l'État ni les particuliers ne pourront payer le surplus de cette transition-là. Et je pense que l'équation, on peut la résoudre d'une seule manière, c'est avec des solutions qui permettent d'améliorer la productivité des bâtiments. Je vais vous donner un exemple très basique, très très simple, les thermostats. On parlait tout à l'heure d'énergie, les thermostats, notamment intelligents et connectés. À partir du moment où ça vous fait des économies de 20 ou 30% de facteur de chauffage, qui est, je crois, de 1 300 € par an, vous avez tout de suite un payback et vous résolvez l'équation parce que le particulier, il a un payback très rapide, vous rendez le bâtiment beaucoup plus économe et beaucoup moins émetteur de CO2 et vous le faites grâce à la technologie. Voilà. Donc ça, c'est cette équation-là qu'il faudra qu'on résolve parce que sinon, on va avoir des bâtiments qui soit seront trop coûteux pour l'occupant ou l'investisseur, soit ne répondront pas aux exigences de demain, et notamment la partie économie d'énergie et CO2.
Merci beaucoup. Alors, je suis désolée, c'est pas simple de vous gérer à distance tous les deux, mais donc je fais la transition avec Monsieur Delépine, justement. Donc le Gigemelec, je le rappelle, est le groupement des entreprises de la filière électronumérique française. Vous êtes le syndicat professionnel représentant, si je me trompe, vous me dites, 200 entreprises fournissant des technologies électriques et numériques pour le pilotage des énergies, des infrastructures, de l'industrie, des bâtiments et de l'électromobilité. Avec ce que vous venez d'entendre, ce que vous avez aussi entendu avant, comment vous appréhendez du coup cette prospective? Quelle est votre réaction face aux scénarios qui nous sont proposés aujourd'hui?
Alors d'abord, merci beaucoup pour cette opportunité. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et donc il y a des choses que je vais répéter. Premièrement, comme vous l'avez dit, le Gimelec représente la filière électronumérique. Et si je prends une illustration, qu'est-ce que l'électronumérique? C'est la conjonction de l'électron et de l'octet. Et évidemment, quand on parle de prospective et quand on voit tous les éléments qui ont été amenés dans ces différents scénarios et les 22 facteurs qui ont été analysés, on a pris beaucoup d'intérêt, de plaisir et aussi des prises de conséquences, on y reviendra, sur le fait d'y participer, de contribuer aussi avec les informations que nous pouvions amener et également de nous positionner par rapport finalement à ces différents scénarios qui ont été évoqués. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément dans lequel on a trouvé un fort intérêt, c'est finalement l'approche méthodologique. Pour la simple et bonne raison que cette approche méthodologique, en réunissant l'intégralité des acteurs du monde du bâtiment, permet d'avoir une approche qui permet voilà, de faire différents scénarios, certes, mais aussi certaines simulations, et puis de confirmer ou d'infirmer les projections que nous avions pu faire en tant qu'industriel ou intégrateur de solutions. Ça, c'est la deuxième raison de l'intérêt porté vraiment pour cette étude. Le troisième élément qui est extrêmement important, et ça a été dit à plusieurs reprises cet après-midi, hein, c'est finalement la notion d'ouverture et d'exposition aux problématiques et aux sujets des autres.
Oui, c'est finalement ce désilotage. On n'est plus chacun dans son bac à sable. Hein. Je crois que c'est une image que vous m'aviez donnée.
Absolument, absolument. J'aime bien l'image du bac à sable par rapport à la plage qui est autour. C'est vraiment l'essentiel là. Hein. L'entre-soi permet évidemment d'aller adresser un certain nombre de sujets. La version horizontale et désilotée finalement de ces problématiques permet vraiment d'ouvrir le champ des possibles et surtout d'avoir la vue à 360 degrés sur les impacts, mais également les solutions à mettre en œuvre qui, la plupart du temps, pour ne pas dire toujours, seront forcément co-construites et ou co-développées.
Alors si on... Excusez-moi, si on rentre justement dans les scénarios, alors j'imagine que pour vous, on l'a entendu un petit peu, ce bâtiment comme un service, c'est un peu le monde parfait là.
Alors je ne sais pas si c'est le monde parfait. En revanche, il y a une conviction qui ressort et peut-être que c'est une vue biaisée de par notre mission, mais première chose, c'est que on a la conviction que c'est un morceau de ces quatre scénarios ou en partie qui va se réaliser. Et la deuxième conviction qui vient juste après, c'est que probablement la notion d'une action du bâtiment comme un service, au sens large du terme, et pas réducteur juste au niveau du service, mais permettra d'accélérer un certain nombre de mutations et également peut-être d'amortir un certain nombre de problématiques que l'on va rencontrer. Qu'elle soit finalement sur la pénurie de composants, sur la notion de rééquilibrage ou évidemment la mixité des usages. Il y a un élément essentiel que l'on a vu, et ça a été dit aujourd'hui, hein, c'est un changement radical dans la perception finalement de ce qu'était le bâtiment, ou en tout cas une accélération de ce changement. On passe d'une notion d'occupant des bâtiments, qu'ils soient résidentiels ou tertiaires d'ailleurs, à une notion d'usager. Ça paraît anodin, et sont des transformations qui ont été initiées il y a maintenant plusieurs années par l'intégralité de la filière. Hein. Mais pour autant, c'est mettre au cœur des réflexions de l'intégralité de la filière l'usager, c'est-à-dire ce pourquoi on est ou on se rend dans un bâtiment et rendre le bâtiment au service de la personne qui y est. Ça nécessite une projection assez importante finalement des mutations à opérer, des solutions à mettre en œuvre et également de l'intégralité de la filière qui doit s'aligner pour justement répondre à ces enjeux, tout en prenant en compte justement cette prospective et ces quatre scénarios qui ont été...
Alors, qu'est-ce que ça change concrètement? Comment vous vous positionnez là, du coup?
Alors, d'abord, ça nous met face aux facteurs, et je l'ai dit tout à l'heure, hein, les nôtres, ceux que nous connaissons bien, dans notre propre périmètre, mais également les facteurs de l'intégralité des acteurs de la filière. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que à partir du moment où d'abord, un industriel va réfléchir à une solution, ou va travailler sur une solution, ou ils vont travailler à une solution commune. À partir du moment où on est au courant des différents facteurs, c'est la nécessité de la prise en compte de ces différents facteurs dans la définition de la solution. Et c'est aussi une confirmation, finalement, des mouvements profonds qui ont été opérés au sein de la filière des industriels, de la mise sur le marché de solutions qui soient simples, interopérables, et digital pour permettre justement d'aborder cette transversalité des sujets. Le deuxième élément et le deuxième changement majeur, il est opéré pour tous ceux qui intègrent ces solutions finalement. C'est-à-dire toutes les sociétés, tous les systèmes intégrateurs, tous les metteurs en œuvre qui vont devoir mettre en œuvre ces solutions. Et ça veut dire la prise en compte finalement de nouveaux métiers, de nouvelles compétences et l'accompagnement dans la formation de ressources à moyen et long terme. Et enfin, pour tous les acteurs, le changement majeur, il est clairement sur, vous l'avez dit, hein, une approche complètement désilotée, qui nous permet d'avoir une vue beaucoup plus large, finalement, du champ des possibles, mais également une approche globale qui va toucher la notion de réseau, la notion des services, la notion de mixité ou de réversibilité des bâtiments, et également au niveau de l'État, avec la nécessité peut-être d'aller désiloter un certain nombre de décisions. Et je vais prendre un exemple, hein. On peut avoir une politique numérique au niveau d'un pays, au niveau d'un gouvernement, et à côté, une politique sur le bâtiment. Il est essentiel à un moment donné, c'est un exemple, et il y en a d'autres qui ont été donnés aujourd'hui, hein. Il sera essentiel d'aller ramener ces sujets et d'avoir une convergence de ces sujets au même titre qu'aujourd'hui tous les acteurs.
Oui, aujourd'hui on a un plan bâtiment durable et on a un plan BIM 2022 par exemple. Voilà, vous appelez à plus de passerelles. Alors je reviendrai avec vous également en fin de session sur un petit mot de conclusion parce que vous avez quand même fait une tribune importante justement de la filière et on parle justement de l'organisation de la filière électrique par rapport à pour réussir la transition écologique. Donc ça rentre aussi dans cela, je pense que vous allez vouloir l'évoquer. Mais pour avancer, alors je suis un tout petit peu en retard, Monsieur Brévière, donc Aldès, vous êtes le directeur de la stratégie chez Aldès, également vous êtes directeur de l'expérience client, donc je trouve ça important aussi de le souligner justement, puisqu'on est, orienté justement vers l'utilisateur final encore plus aujourd'hui, vous allez nous confirmer en quelques mots. Donc votre vision à vous aussi du bâtiment de demain, hein, votre réaction face à ce que vous avez entendu tout à l'heure et maintenant.
Alors, pour nous, l'intérêt essentiel, principal de ce travail qui a duré pendant plusieurs mois ensemble avec l'ADEME et CSTB, c'est de remettre finalement l'humain au centre du bâtiment, parce que on en parle, mais peut-être pas assez. Et donc, on a bien mis l'humain au centre de la démarche. L'humain avec une bonne dose d'usage. On parle beaucoup d'usage, mais finalement, il y a peu d'interactions aujourd'hui avec un bâtiment. Il y a plus d'interactions avec une automobile, une voiture, qu'avec le bâtiment. Mais les choses changent. Donc, on va vers le human tech. Et comme on passe plus de 80% de notre temps dans les bâtiments, ça nous semble essentiel de prendre en compte justement cet usage. Alors, comment le faire ? On a effectivement remis en contexte l'évolution, comme le disait Étienne Crépon tout à l'heure, d'un bâtiment qui est plutôt sur le temps long, avec des signaux faibles qui apparaissent, mais des vraies tendances qui vont se confirmer. On voit quatre axes indéniables. Benoît l'a évoqué tout à l'heure, c'est la connectivité. Donc, sur ces éléments-là, les choses vont vite. Je me rappelle, il y a 20 ans, on parlait de domotique. Maintenant, on parle de smart home.
Oui, c'était très gadget à l'époque, hein, d'ailleurs, quand on parlait de domotique.
C'était très gadget à l'époque, mais les choses ont changé.
Alors maintenant, on parle de GTB, on va au fond des choses.
Exactement, hein. Et on a dans la poche, finalement, un ordinateur. Donc, deuxième point, c'est la santé et le bien-être. Alors bon, je suis bien placé parce que chez Aldès, on fait des systèmes de ventilation. Il faut quand même porter les masques parfois en interne, mais c'est vraiment l'axe santé. Donc, de promouvoir, de pousser les investissements autour de la rénovation.
Donc, avec le sensoriel qu'on a entendu tout à l'heure, ça j'imagine Exactement. Que ça vous a interpellé. Alors, peut-être justement sur votre métier, qu'est-ce que cela change aujourd'hui, tout ce que vous avez pu entendre ?
Alors, ça change deux, trois éléments. Le premier élément, c'est que ça met l'accent sur les économies d'énergie, le bas carbone. Alors, il se trouve que nous avons des pompes à chaleur, on l'évoquait tout à l'heure, et on a un marché qui augmente de 30% par an. Alors, c'est une bonne chose. Et ça, c'est un changement radical qui a lieu depuis quelques années. Ça, c'est le premier point. Le deuxième élément, c'est encore une fois les éléments de connectivité. Alors, connectivité, pas pour justement faire gadget, comme on disait, mais pour avoir un vrai bénéfice d'usage. On l'évoquait tout à l'heure pour, par exemple, piloter une réduction de la consommation. Quand je ne suis pas dans le logement, je vais baisser le chauffage de manière automatique. Et puis, le dernier point, ça va être le changement du mode constructif. On commence à voir apparaître des éléments de off-site, de fabrication en usine.
D'industrialisation, oui.
Exactement, et c'est encore, je dirais, moins de 1%, alors c'est plus de 30% dans les pays nordiques, mais c'est en progression forte, et ça va remettre, redistribuer les cartes d'un point de vue stratégique sur le monde du bâtiment, et c'est une opportunité. Alors,
nous, on justement, voit tous ces scénarios... pardon, excusez-moi, justement, en tant qu'industriel, c'est intéressant aussi de vous poser cette question-là sur le local. Parce que finalement, le local aussi, c'est lié à, quand on parle de transition environnementale également. Du coup, comment est-ce que ça touche aussi cette vision-là de l'industriel ?
Alors, la chance, nous sommes dans une industrie qui est difficilement délocalisable. On parle de bâtiments en France, sauf si tout le monde, effectivement, va émigrer. Mais plus sérieusement, le sourcing local reprend de l'importance. Certains de nos produits voyagent mal entre la Chine, l'Europe. Donc, c'est la source, le sourcing des produits en local, promouvoir le local. Et puis deuxièmement, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, c'est la filière de l'emploi du bâtiment qui est un employeur majeur sur la France, et de continuer à promouvoir des logements sur la partie neuve, mais sur la partie rénovation également. Mmh. On a un plan de rénovation qui est très, très ambitieux, et notamment de rénovation énergétique.
Donc savoir être agile aussi pour pouvoir s'adapter à tous ces changements, c'est un peu la leçon que nous donne cette démarche prospective, je pense, pour vous tous. Alors, le temps nous est un petit peu compté. Du coup, j'avais envie de faire le lien avec vous, Monsieur Brévière, justement. Comment est-ce que vous allez utiliser maintenant cette boîte à outils, tout ce que vous avez entendu? Est-ce qu'il y a un axe majeur sur lequel vous allez insister en tant qu'industriel?
Alors, on a beaucoup d'entreprises centenaires là autour de la table aujourd'hui, mais je pense qu'on aime tous penser à agir en start-up avec beaucoup d'agilité. Et je pense que ce changement qui est en train d'apparaître, en tout cas cette transformation du monde du bâtiment, est une réelle opportunité pour les entreprises. Alors, on met en place des méthodologies qui sont plus issues des start-up et de l'agilité. Des imprimantes 3D jusqu'au bâtiment 3D, du prototypage rapide, des séries plus petites également, pour donner de l'agilité au changement, et on le fait en France comme on peut le faire à l'étranger. Et donc, c'est surtout un changement de mentalité aussi, de manière de faire en interne.
D'accord. Mais écoutez, merci, merci beaucoup. Alors, justement, avant de revenir en plateau, je vais prendre également la filière électrique, nos deux autres intervenants. Comme vous êtes à distance, c'est comme ça, c'est plus simple. Donc, je l'évoquais tout à l'heure, une prise de position importante de l'ensemble de la filière, justement, pour dire bah, voilà, quels sont les changements qu'on attend pour arriver à cette transition environnementale. Et du coup, peut-être m'en dire un mot, monsieur Coquart.
C'est une tribune qui a été signée par toute l'industrie, donc fabricants, enfin, Lignes, Jimelec, mais aussi distributeurs, installateurs, et ce qui a été fait sous l'égide de l'UFE, et qui avait un simple objectif, c'est de dire attention, on oublie parfois un petit peu l'importance de toute cette filière-là dans les transformations à venir. C'est-à-dire que nous, on est convaincus, avec des études très sérieuses à l'appui, qu'on ne pourra pas faire la transition énergétique si on ne modifie pas durablement les usages dans les bâtiments, et que pour modifier les usages dans le bâtiment, il faut rendre le contrôle aux occupants. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit eux qui puissent gérer leur consommation d'énergie, leur ventilation et un certain nombre d'autres sujets.
Vous parlez d'adaptation de la réglementation, et puis surtout un fort besoin, et ça rejoint aussi notre débat, de formation.
Un fort besoin de formation, parce que on est une filière qui emploie des centaines de milliers de personnes, et il faut évidemment que l'ensemble de la filière bouge en même temps, mais je pense qu'on le fait.
Éviter la pénurie de main-d'œuvre.
Alors, la pénurie de main-d'œuvre, oui, et puis surtout faire en sorte. Mais vous savez, on est une industrie. Marc disait tout à l'heure qu'on est beaucoup dans des entreprises qui sont centenaires. Ce qui est frappant, c'est qu'on est une industrie qui a une faculté extraordinaire à se réinventer, que ce soit, encore une fois, les fabricants, les distributeurs, les installateurs. Et moi, je je suis assez convaincu qu'on va démontrer dans les années qui viennent qu'on va continuer à se transformer, qu'on remplira complètement les cahiers des charges des bâtiments de demain, quel que soit le scénario qui sera finalement, ou quels que soient les scénarios qui seront finalement ceux qui vont se réaliser.
Alors pour notre dernier mot, merci beaucoup hein, Monsieur Coca, Monsieur Delépine, donc en très peu de mots, mais finalement voilà, tout s'axe sur l'axe numérique est très important. On a une question d'ailleurs dans le chat, est-ce qu'on pourrait envisager une crise du numérique comme il y a eu une crise sanitaire, voilà, est-ce que c'est une question qu'il faut se poser aussi et finalement, voilà, comment votre prochaine étape?
Alors les prochaines étapes, et pour compléter ce qui vient d'être dit par Benoît et globalement par tous les intervenants, y a une prise de conscience forte qui est extrêmement importante. Je l'ai déjà dit, l'alignement de tous les acteurs. La prochaine étape, c'est vraiment faire la promotion, d'une part, finalement, de cette boîte à outils, mais ça va beaucoup plus loin que cette simple boîte à outils. Il y a la notion, finalement, d'aller la faire connaître, mais également de travailler avec les différents acteurs, qu'ils soient usagers ou metteurs en œuvre. Donc ce sont vraiment les prochaines étapes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester juste à la notion de prospective à un moment donné. Il faut une mise en application. Tous les industriels et tous les acteurs de la filière sont engagés déjà depuis longtemps. La conjonction des actions, encore une fois, est importante et c'est cette mise en mouvement qui fera la différence dans les mois et années à venir pour tenir les ambitions extrêmement importantes que nous nous sommes fixées.
Merci. Et du coup, sur cette possible un jour crise du numérique, est-ce que vous y croyez pas? Comment est-ce qu'il faudrait s'y préparer ou l'empêcher?
Alors, au même titre que le reste des activités, le numérique peut être soumis à certaines crises, hein, que ce soit une crise énergétique, une crise
pénurie cyber, de composants aussi.
Une pénurie de composants.
Le risque cyber, vous dites. Ouais.
Absolument, une crise de l'accès finalement au digital, enfin au numérique. Qui est un élément essentiel, puisqu'on pense que c'est un droit essentiel pour chacun. Et donc, ces sujets-là doivent être intégrés aujourd'hui dans la prospective et dans les actions qui sont menées par l'intégralité des acteurs pour s'assurer justement de l'anticiper et de l'éviter au possible.
Merci beaucoup, merci de cette réponse. Alors, je reviens en plateau avec mes invités en plateau. Pardon, je vous ai un petit peu abandonné pour l'extérieur. Donc, peut-être justement un dernier tour de table. Comment est-ce que vous avez perçu tout ce que vous avez entendu, mais surtout la prochaine étape finalement. Allez, je fais dans l'autre sens et je terminerai par vous, Monsieur Mas. Ah, pardon, comme vous voulez.
Ouais, je veux bien commencer avec plaisir. Vous présentiez tout à l'heure Primagaz comme un distributeur et c'est ce que nous sommes. Mais dans les quatre scénarios, et on l'a évoqué très brièvement à l'instant, cette notion du retour au local, au circuit court, est quelque chose d'extrêmement important. Et ça pose la question du positionnement de Primagaz dans la chaîne de valeur. Est-ce qu'on va rester un simple distributeur ou est-ce qu'on va remonter un peu plus haut dans la chaîne de valeur et aller aussi vers la production?
Qui serez-vous dans 10, 20 ans?
Exactement. Primagaz, c'est une entreprise qui a 162 ans, qui avait un autre nom il y a 85 ans. On s'est réinventé au travers du temps.
Vous pourriez nous redonner d'ailleurs le premier nom, c'est intéressant.
Ça s'appelait Lyotard Frères et on distribuait des becs de gaz du temps où on commençait l'éclairage public dans l'urbanisation.
Urbain.
Exactement, du mobilier urbain. Aujourd'hui, Primagaz, ça fait 83 ans que ce nom existe. Et demain, il y aura probablement un autre nom parce que la distribution de gaz, on voit bien qu'elle doit évoluer. Quel sera le nom dans 20, 30, 40 ans, c'est pas forcément le sujet. Par contre, notre position dans la chaîne de valeur, c'est important. Être un producteur d'énergie en circuit court, c'est quelque chose qui est un des apprentissages de cette boîte à outils et qui vient renforcer notre conviction que travailler sur la production en local, ce qu'on fait pour les années à venir, c'est une porte de sortie importante pour notre industrie.
Monsieur Mas, peut-être un dernier mot, votre prochaine étape?
Notre prochaine étape, c'est de retravailler avec les territoires, ouais. Retravailler leurs projets, la manière dont les différentes collectivités territoriales imaginent en fonction de leurs ressources, de leurs avantages, de leurs contraintes, de ce qu'elles ont envie de faire, leur énergie, en s'appuyant sur leurs forces, sur ce qu'on peut déjà valoriser en local, et pour être au plus près de la délibération démocratique qui a lieu dans chacun des territoires. Je pense que c'est notre prochaine étape pour inventer pas à pas la manière dont on ira vers 2050.
Et aussi tous ensemble, voilà, de l'ensemble de ces facteurs, encore une fois, imaginer ensemble les bâtiments de demain.
Absolument.
Monsieur Pétri.
Écoutez, ces différents scénarios, cette boîte à outils nous confortent et nous renforcent dans l'idée d'aller plus vite et plus fort sur le bas carbone dans les solutions que nous proposons, bien sûr. Je pense qu'elles nous permettent aussi de mettre en évidence un certain nombre d'atouts sur lesquels nous communiquons mal ou pas assez, et qu'on peut probablement mettre en valeur avec les autres acteurs de la construction, que ce soit la modularité ou la capacité à rendre modulaire et adaptable les bâtiments, que ce soit l'aspect local et disponible de nos matériaux, le sujet circulaire et la recyclabilité, qui, si on s'inscrit dans un plus long terme, va évidemment intervenir favorablement dans les différents équilibres. Après, il y a des challenges, il y a des challenges importants, plus d'agilité, plus de vitesse, plus de capacité à collaborer et à co-développer. Je pense que ça a été mentionné largement.
Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est important, cette collaboration nouvelle, ce changement de temporalité aussi.
Sans lesquels, on ne saura pas répondre aux différents challenges qui nous sont adressés de cette neutralité carbone.
Écoutez, merci beaucoup, merci à tous, merci messieurs d'avoir joué le jeu de ce débat entre les distances et le studio. Merci à tous, ainsi s'achève notre séquence. Et j'ai envie de retenir plusieurs mots quand même, voilà, ensemble, rassurant, finalement un certain optimisme, résilience, s'adaptation. Voilà, on le sait, notre filière connaît un profond bouleversement depuis 20 ans, voire certains le disent à 30 ans, mais voilà, ce bouleversement-là s'accélère. Cette démarche prospective de l'ADEME et du CSTB nous permet de nous poser les bonnes questions et nous donne les outils pour avancer. C'est ce que vous nous avez délivré encore maintenant et lors également de notre première table ronde. Et maintenant, nous allons voir concrètement dans notre prochaine séquence comment s'emparer aussi de ces outils, voilà, concrètement, cette boîte à outils, comment elle peut fonctionner en interne, donc avec les représentants d'EDF, de l'INRS et de ARP Astrans. Ils se sont appropriés cet outil, comment et quels sont leurs retours. Je vous dis à tout de suite et n'oubliez pas, ceux qui n'ont pas fait, de répondre à notre sondage.